frères. Frères d'armes, au moins. Ils sont originaires de la même ville de Niafunké, au bord du fleuve Niger, au sud de Tombouctou, dans ce Soudan français de l'époque qu'on appelle aujourd'hui le Mali. Ils sont nés à 2 ans d'intervalle, en 1890 et 1892. Ils sont Bambara du clan des Tamboura. Ils s'appellent Baba et Moussa. Ils sont versés dans 2 régiments différents. Ils sont volontaires. C'est du moins ainsi que l'on appelle les coloniaux raflés. Les gouverneurs de chaque région sont tenus de fournir leur quota de soldats. On est peu regardant à Bamako ou à Dakar sur la façon dont ils les obtiennent. On ignore tout autant ce que Baba et Moussa laissent en quittant le Mali. Un métier, une mère, une femme, des enfants. On peut en revanche deviner leurs sentiments au moment du départ. La fierté de l'uniforme, un peu. La peur de l'inconnu, sans doute. Et surtout cette grande déchirure vive qui signe le départ du pays natal. Baba a eu de la chance, et Moussa moins. Baba est d'abord versé dans un bataillon du génie. Il échappe de peu à un départ pour la boucherie des Dardanelles et restera de longs mois cantonné en Afrique, au Somalie. Parvenu en France à Marseille au début 1916, Moussa sera formé au métier des armes au camp de Fréjus, avant d'être engagé au printemps 1916 à Verdun. On imagine la force de la découverte de l'Europe pour ces tirailleurs sénégalais. Les forêts d'arbres inconnus, les calmes rivières qui strient les plaines si vertes au printemps, les surprenantes vaches aux taches noires et blanches. Et soudain, après un détour par un camp à l'arrière et une marche interminable depuis Verdun, c'est l'enfer. Des tranchées, des barbelés, des obus, tellement d'obus que le silence devient bien rare et inquiétant. Les coloniaux découvrent la mort en même temps que les biffins blancs à leur côté. Jamais l'expression « chair à canon » n'a été aussi justifiée. Les hommes se démontrent comme des mannequins sous l'effet des explosifs, se déchirent comme du papier sous les shrapnels, hurlent, saignent, les remblais regorgent de débris humains broyés par le moulin à poivre de l'artillerie. 700 000 hommes tombent à Verdun de part et d'autre de la Meuse. Ensevelis, brûlés vifs. Déchiqueté par les mitrailleuses ou les millions d'obus qui labourent le terrain. Moussa, comme tous ses camarades, fait l'expérience de la peur d'abord, puis de la très grande peur, puis de l'immense frayeur. Il trouve le courage au cœur de l'effroi, le courage de suivre un caporal pour monter à l'assaut d'une position trop bien défendue, qu'il faudra renoncer à conquérir après avoir vu ses frères d'armes tomber autour de soi. Sans que l'on comprenne trop bien pour quelle étrange raison on est soi-même indemne. Le secteur a un nom de circonstance, le Morom. On a peine à croire qu'il ait pu y avoir un village dans ce charnier que les pluies de printemps transforment en marécage ou flotte, au lieu de plantes aquatiques, des doigts et des oreilles. Moussa Tamboura sera finalement capturé le 24 mai 1916, avec la majeure partie de son escouade, devant cette côte 304 que 10 000 soldats viennent de mourir pour défendre en vain. À peu près au même moment, alors que Moussa, qui vient d'échapper de peu à la mort, se demande si son frère est toujours en vie, Baba plante sa tente aux environs de Djibouti. Son bataillon va être reformé avec d'autres éléments coloniaux. Des soldats devraient arriver d'Indochine pour les rejoindre, avant de se rendre en France. Pour Moussa, la captivité, pourquoi le nier, est un soulagement. Les Allemands réservent un traitement spécial aux soldats musulmans. Moussa Tamboura est envoyé dans un camp de prisonniers au sud de Berlin, à 1 000 km du front. Pendant le voyage, il pense sans doute que les paysages allemands ressemblent à ce qu'il a pu voir du nord de la France. Le camp où il est interné s'appelle le camp du croissant, Halbmondlager, à Zossen, près de Wunstorf. Il est réservé aux prisonniers mahométans, ou présumés tels. On y trouve des Algériens, des Marocains, des Sénégalais, des Maliens, des Somalis, des Gourmands.